Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseaux qui célèbre en 2021 son 40e anniversaire. On a un épisode assez long aujourd'hui, alors qu'on se dirige vers une autre saison un petit peu plus difficile côté sortie ornithologique et côté sortie tout court. Permettez-moi pour introduire mon premier sujet, une fois n'est pas coutume de vous parler peut-être un petit peu plus de moi personnellement et d'anecdotes personnelles. Je vais vous présenter ma journée du 20 décembre, pendant laquelle je suis sorti tôt le matin de chez moi pour participer à une de mes activités préférées de l'année, le recensement des oiseaux de Noël. Donc on s'en va comme ça tôt de la maison et on arpente, dans mon cas évidemment, à Montréal, des parcs urbains, des friches industrielles, un petit boisé. On passe à travers les rues, on cherche les mangeoires. Pendant toute la journée, malgré une forte neige qui tombait cette journée-là, j'ai ainsi participé à un des plus vieux et des plus grands projets de sciences citoyennes au monde. Ma contribution personnelle, donc les oiseaux que j'ai vus moi-même, bon, presque 200 étourneaux, 350 pigeons, des mésanges, des chardonnerets, qui sont évidemment des oiseaux assez communs, mais aussi 3 grands corbeaux, 6 bruants hudsoniens, 6 merles d'Amérique. Alors comme vous voyez, on compte vraiment tout et avec autant de détails qu'on peut. Donc je me suis entretenu avec Louise Falcon, qui est responsable du recensement des oiseaux de Noël du Club d'ornithologie de Longueuil, où mon club à moi, la Société de biologie de Montréal, participe à chaque année. Pour la deuxième moitié de la balado, on va sortir même du Québec et on va s'envoler pour les plantations de café. J'ai parlé avec Joanie Gagnon, coordonnatrice des programmes d'éducation au Nichoir à Hudson, et on a parlé du café certifié Bird Friendly, donc bon pour les oiseaux, de ce que ça signifie, à quoi sert l'appellation, de ce qu'elle est différent des autres appellations qu'on connaît, des autres certifications pour le café, et de où on peut se procurer ce café-là. Alors, je suis maintenant avec Louise Falcon. Louise Falcon, vous êtes vice-présidente du Club d'ornithologie de Longueuil et responsable pour ce club du recensement des oiseaux de Noël. D'abord, merci d'avoir accepté de faire cette entrevue.
Oui, merci. Bonjour.
Bonjour. J'aimerais bien commencer par, déjà, pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement ça ou qui n'ont jamais participé à ce genre d'activité, qu'est-ce que c'est un recensement des oiseaux de Noël? Comment ça fonctionne?
Bien, en fait, ça consiste à faire entre le 14 décembre et le 5 janvier un recensement de tous les oiseaux et de toutes les espèces et de tous les individus dans un territoire donné, c'est-à-dire un cercle qui a un diamètre de 25 km.
Et puis, ce cercle-là, donc, c'est un cercle qui est défini et qu'on garde d'une année à l'autre.
Oui, exactement. En fait, c'est la société Audubon aux États-Unis qui chapeaute l'ensemble des runs en Amérique du Nord et Études d'Oiseaux Canada ici au Canada qui attribue les cercles de les territoires de recensement. Donc, il s'agit d'en faire de la demande, d'identifier le territoire qu'on désire couvrir, s'assurer qu'il est libre. Puis ensuite, ce cercle-là est couvert d'année en année par l'organisme responsable.
Et puis, quel intérêt est-ce que ça a de choisir une période comme ça fixe? Par exemple, on dit entre le 14 décembre et le 5 janvier. Pourquoi ces dates-là sont importantes? Pourquoi est-ce qu'on fait ça à ce moment-là dans l'année?
Mais en fait, il y a des recensements qui se font à différentes périodes de l'année. Celui-là, il est simplement né d'une tradition qui s'est instaurée dans la période de Noël qui venait remplacer une chasse assez sauvage qui avait lieu à tous les Noëls. Donc, à tous les Noëls, les chasseurs sortaient, puis l'objectif était de tuer le plus grand nombre d'oiseaux.
Puis, une compétition un peu macabre.
Ouais, macabre. Et puis, là, évidemment, il y avait des espèces qui déclinaient, des gens qui s'en apercevaient. Fait que c'était le début d'une conscience de conservation. Et la société Audubon, qui venait d'être créée dans cette mouvance-là, a dit, nous, on ne va pas chasser, on va observer le plus grand nombre d'oiseaux à Noël. Voilà pourquoi Noël, c'était le remplacement d'une tradition.
Puis, il faut dire aussi, c'est une période de l'année qui est propice parce qu'en général, vers la fin décembre, début janvier, presque partout dans le monde, les déplacements d'oiseaux pour la migration sont pas mal finis. C'est-à-dire que si on faisait ça en mai ou en octobre, ben là, il y aurait toujours la chance, admettons, compter des oiseaux au début de la période, puis que 2 semaines plus tard, ils soient rendus ailleurs, puis de les compter comme 2 fois si on veut.
C'est sûr que ce qu'on observe, ce sont les populations d'oiseaux résidentes à l'année, là, celles qui demeurent. Donc, on n'est plus dans un phénomène de migration, on est dans un phénomène d'oiseaux résidents, un nombre d'espèces plus limité, mais qui, bon an, mal an, a une certaine stabilité dans le territoire aussi.
Bien, il faut dire aussi quand même, on peut faire un recensement des oiseaux de Noël, on pourrait en faire un en Argentine, il en existe vraiment partout là, dans le monde maintenant.
Oui, bien en fait, cette tradition-là, elle remonte à 1900, puis ça a été vraiment, il faut le noter, je trouve que c'est un beau fait, mais ça a été ininterrompu. Même pendant les guerres, ça s'est fait.
Ah oui.
Ça s'est fait en année de pandémie. Tu sais, c'est pas rien, là. C'était la 121e édition, donc il n'en manque pas une. Et ça se passe dans les trois Amériques au cours de la même période. Donc, au total, là, il y a 2650 ou quelques cercles de recensement dans les trois Amériques. Puis ça occupe des milliers d'observateurs.
Parlons peut-être un petit peu du recensement des oiseaux de Noël de Longueuil. Il faut dire, moi, c'est mon recensement, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai été initié à cette activité-là avec le recensement des oiseaux de Noël de Longueuil. Donc, j'ai participé cette année, encore une fois. Et donc, qu'est-ce que c'est votre cercle? Où est-ce qu'il est situé?
Oui, mais juste premièrement, je veux ajouter que oui, c'est le recensement du Club d'ornithologie de Longueuil, mais c'est vraiment fait depuis des années, en collaboration avec la Société de biologie de Montréal, parce qu'une partie de notre territoire est à Montréal. Fait que dans le fond, notre cercle, il y a son centre, je pourrais pas dire exactement, mais quelque part à Montréal. Donc nous, notre cercle, il part à Longueuil, à peu près à la Marina. Il se rend jusqu'à Varennes, en passant là, par le parc de la Commune, les berges du fleuve. Puis ensuite, il va dans les rangs de Varennes, Verchères, Boucherville, une partie de Montréal, du jardin botanique, grosso modo, jusqu'à l'est, à Pointe-aux-Trembles.
Oui, à peu près tout ce qu'il y a à l'est de Pinneuf.
Oui, exactement, c'est ça. Puis ensuite, il se rend au nord jusqu'à la rivière des Mille-Îles, la Chenaie, un petit peu de Terrebonne. Donc, c'est vraiment un beau territoire diversifié. Ah, puis, c'est assez grand là, à couvrir.
Ça couvre quatre régions administratives.
Oui.
Hein, donc, il y en a pour tous
Laval,
les goûts.
Oui, Laval, la pointe de Laval, tu sais, pour les goélands et tout. C'est un superbe territoire.
Et puis, combien de personnes participent à peu près à votre recensement?
À Longueuil, bon an, mal an, là, c'est entre 40 et 70 personnes. L'an passé, tu vois, on avait 59, je crois, sur le terrain. Puis cette année, même malgré la pandémie, on a couvert ça autrement, mais on était 45, ce qui est énorme là,
ah oui,
pour couvrir le territoire. C'est très bon, là.
Oui, puis pour ceux que ça intéresse, là, d'habitude, je ne parle pas d'anecdotes personnelles. Moi, cette année, j'ai couvert la partie, en tout cas, entre la 25 et tricentenaire, là, disons l'est de Montréal, Montréal-Est, Anjou, des parties comme ça. Lorsqu'on est en pandémie, évidemment, les choses vont se faire un petit peu différemment. Comment vous avez arrangé le recensement cette année en fonction de la pandémie?
Nous, traditionnellement, on se divise en 10 équipes, puis on a donc 10 sous-territoires que chacune des équipes couvre, mais sans nécessairement se diviser. Tu sais, elle passe la journée ensemble, puis couvre le territoire, qui est assez grand malgré tout.
Oui, nous, c'est comme ça, notre équipe, en tout cas, on peut être même jusqu'à une dizaine de personnes
se
suivre presque toute la journée.
Cette année, évidemment, on ne pouvait pas faire ça. Alors, moi, premièrement, je me faisais un point d'honneur de faire participer toutes les personnes qui voulaient le faire. Fait que ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a divisé chacun des sous-territoires en parcelles, puis on a envoyé des gens par très petites équipes, des couples ou une personne seule ou deux personnes dans les parcelles du territoire. Ce qui fait qu'un territoire où on pouvait consacrer 7 heures, grosso modo, une équipe 7 heures, bien, cette année, on a réussi à consacrer presque 2,5 fois l'effort pour couvrir le secteur. On est le nombre de kilomètres à pied cette année, là, c'est incroyable parce que des fois, des petites parcelles qui peuvent être 4-5 parcs en enfilade avec des pistes cyclables, on n'avait pas le temps d'aller là. Mais cette année, on est allé vraiment plus loin dans le territoire, plus à fond. Fait que ça a donné vraiment cette année-là un bon recensement.
Oui, alors donc, parlons peut-être un petit peu de résultats parce que j'imagine les gens sont peut-être curieux de savoir combien d'espèces ça donne un recensement. Je pense que les gens qui connaissent peut-être un petit peu moins les oiseaux imaginent peut-être qu'en hiver, ben, il reste presque plus rien, où il n'y a pas énormément d'oiseaux, surtout dans un territoire comme ça quand même. On parle, bon, Laval, Montréal, Boucherville, Longueuil, c'est des territoires qui sont quand même relativement urbanisés, là, donc on n'est pas en pleine campagne. Alors, donc, qu'est-ce que ça donne? Combien d'espèces on peut observer?
Tu vois, on va rester à Longueuil. Notre moyenne, là, ça tourne autour de 60 espèces. Tu vois, là, l'an dernier, on avait 59 espèces. Puis ça, tu sais, ça peut varier avec les conditions climatiques. Une journée de tempête, une journée où il y a de la brume sur le fleuve, c'est plus difficile. Mais en moyenne, on peut se dire 60. Puis cette année, là, on va avoir notre soirée run bientôt, mais avec le podcast, là, je peux le dire.
Le podcast va sortir après,
Cette année, là, avec un effort beaucoup plus important, on est allé chercher 70 espèces.
Oh, quand même!
On est vraiment contents. Là, on a des espèces nouvelles parce qu'au total des 27 années, on a à peu près 130 espèces. Mais il y a des raretés qui sont vues une fois, deux fois.
Oui, c'est ça,
une année. Mais vraiment, là, cette année, 70 espèces, là, c'est excellent. Oui, vraiment, on est content.
Puis, est-ce qu'il y a des choses particulières qui ont été observées, des raretés, des surprises?
J'ai pas épluché toutes les données parce que j'ai fourni des données parcellaires puis que c'est quelqu'un d'autre qui a fait le compte. Mais on a beaucoup de hiboux des marais cette année. C'est vraiment une bonne année hiboux des marais. Puis, on a une nouvelle espèce qui est la bernache de Hutchins. Qu'on n'avait jamais eu en 27 ans, et aussi un roitelet couronne rubis, qui est une nouvelle espèce. Fameux roitelet là, qui se tient au jardin botanique ces temps-ci, fait qu'on l'a. Donc, c'est ça, deux nouvelles espèces, total de 70, puis à peu près 12 000 individus, ce qui est un peu plus que l'an passé, même s'il y a des grands nombres qu'on n'a pas pu voir parce que le fleuve, la visibilité n'était pas bonne en fin d'après-midi. Ah, oui. Là. Ouais.
Pour les gens, donc le roitelet couronne rubis qui est comme un oiseau insectivore, puis normalement qui a déjà migré depuis un moment, qui ne devrait pas rester l'hiver. Puis finalement, il se nourrit comme de gras qui est accroché à côté des mangeoires
au jardin botanique. Il y a de la survivre, là. En tout cas, j'ai pas de
nouvelles. Pour la bernache de Hutchins, c'est une espèce qui a été séparée récemment de la bernache du Canada, qui était avant une sous-espèce, puis là, donc, qui est une bernache du Canada en format un peu petit.
Oui.
Mais Louise Falcon, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous du recensement des oiseaux de Noël de Longueuil. Puis évidemment, bon, si jamais il y en a qui veulent participer, qui sont dans la région, il ne faut pas hésiter aussi à contacter les clubs. Vous regardez sur le site de Dubon. Dans votre région, il y a probablement aussi déjà des cercles de recensement. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est une super belle activité. Ouais. Puis comme on voit, il y a toujours de la place. Puis on peut toujours trouver des endroits à couvrir qu'on ne couvrait pas avant, donc n'hésitez pas.
Oui, puis je veux juste conclure en disant que c'est vraiment, vraiment amusant de participer à un recensement des oiseaux de Noël. Puis en plus, ben, tu sais, c'est une grande contribution à la science. On ne s'imagine pas, mais c'est la plus vieille base de données scientifiques pour les études de population d'oiseaux. Fait que pour ça, c'est une bonne raison aussi.
Une tradition de 120 ans, il n'y en a pas une tonne.
Il n'y en a pas d'autres. Voilà.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci.
Alors, je retrouve maintenant Joanie Gagnon, qui est coordonnatrice du programme d'éducation au nichoir. Alors, on est à Hudson, en Montérégie, sur le bord de la rivière des Outaouais. D'abord, merci d'avoir accepté de faire une entrevue avec nous aujourd'hui, Joanie.
Ça fait plaisir. Donc, on est super content de pouvoir parler du projet aussi en même temps. C'est super intéressant.
Oui, alors, on va peut-être commencer simplement, pour les gens qui ne connaissent pas le nichoir, qui est quand même une institution au Québec, parler juste rapidement de la mission de l'organisme. Là, on n'ira peut-être pas en détail parce qu'il y aurait probablement un autre épisode qu'on fera probablement une autre fois sur la mission globale du nichoir, ce que vous faites comme travail ici. Mais donc, dites-nous au moins un petit peu qu'est-ce que ça fait le nichoir, puis à quoi ça sert, qu'est-ce que vous faites ici?
Oui, donc le nichoir, en fait, on est un centre de conservation d'oiseaux sauvages. Donc, notre mission, c'est vraiment la conservation. Les gros programmes, si vous voulez, qu'on a, c'est la réhabilitation d'oiseaux blessés ou orphelins pour les remettre en nature. Puis, on fait aussi beaucoup d'éducation. Donc, ça, c'est mon rôle ici. C'est beaucoup l'éducation dans les écoles. On fait des conférences et tout. Puis, on a aussi notre magasin qui va nous aider à soutenir vu qu'on est une OBNL. Puis, le café, dans le fond, ça fait partie un petit peu de ce magasin-là, mais ça rentre vraiment bien dans notre programme de conservation parce que ça aide aussi l'image globale, si vous voulez, de la conservation des oiseaux.
La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est justement pour parler de ce programme de vente de café. Alors, pourquoi cibler le café? Qu'est-ce que ça a d'intéressant? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, finalement, on peut aider à la conservation des oiseaux dès une des premières actions qu'on pose le matin. Vous n'êtes même pas sorti de la maison, puis vous pouvez aider les oiseaux. Alors, pourquoi le café?
C'est une chose qui est très simple à faire, qui a un effet immense sur la conservation. C'est une culture qui est très importante. Au Canada, on boit beaucoup de café. Je pense qu'on est le 10e plus grand consommateur de café au monde. Donc, on boit vraiment... En fait, les adultes boivent plus de café que d'eau en général au Canada. Donc, on boit vraiment plus de café. Donc, ça a vraiment un gros impact. Puis, ce qui arrive, c'est que beaucoup de nos oiseaux ici au Québec vont migrer puis vont aller passer l'hiver dans les régions où il y a des fermes à café. C'est vraiment une façon d'avoir un gros impact parce que la façon typique de pousser le café, c'est on rase la forêt, on met des arbres à café. Puis la déforestation dans les zones tropicales, c'est un gros problème pour les oiseaux tropicaux, mais aussi nos oiseaux d'ici qui vont migrer dans ces zones-là.
OK, donc ce que vous dites, en fait, c'est que lorsqu'on prend la plantation typique, disons, de café, donc le café industriel là, qu'on va acheter, qui est un peu formaté à ce moment-là. Donc, c'est quoi les défis? C'est vraiment la déforestation. Puis la plantation de café, en tant que telle, elle ne représente pas un intérêt écologique aussi important? C'est un peu ça?
Non, c'est ça. Le plant de café, c'est une plante qui est naturellement une plante d'ombre, mais ce qui est arrivé, c'est qu'avec les années, les gens ont développé des cultures de café, des plantes de café qui sont résistantes au soleil. Ce que ça fait, c'est que ça donne beaucoup plus d'énergie à la plante. Donc, la plante va pousser plus vite, va produire plus de café, mais les grains sont produits plus rapidement, donc les fruits vont être produits plus rapidement. Donc, c'est la façon typique pour produire vraiment en masse, vraiment beaucoup de café en même temps. Donc, c'est ce que les gens qui font beaucoup de production de masse vont préférer parce qu'on en produit plein.
Et puis forcément, pour le consommateur, à ce moment-là, c'est moins cher aussi, j'imagine.
Exactement. Mm-hmm. Donc, on en produit plus, ça coûte moins cher. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'on a une perte de qualité. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont aimer beaucoup le café, qui vont vraiment aller chercher ce qu'on appelle du café poussé à l'ombre, qui est un café qui est poussé plus lentement. Donc, le grain plus de temps de maturer. Et donc, ça va développer un goût qui est beaucoup plus complexe. Les gens vont aller souvent pour le café à l'ombre pour ça, mais il y a d'autres façons vraiment de... C'est pas toutes les ombres qui sont pareilles, si vous voulez.
OK. Et puis donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut cibler lorsqu'on veut acheter un café, par exemple, qui va être bénéfique pour les oiseaux, si on veut, entre guillemets? Donc, c'est quoi les méthodes de culture du café qui vont permettre aux oiseaux qui migrent ou aux oiseaux résidents dans ces pays-là? J'imagine qu'on parle de la Colombie, qui sont des gros producteurs de café, les pays d'Amérique du Sud. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on va cibler comme type de culture qui va être plus bénéfique?
Comment ça fonctionne? C'est pas toutes les cultures de l'ombre qui sont pareilles. Donc, si on regarde, par exemple, la type monoculture juste café au soleil, on va en voir environ 60 espèces d'oiseaux qui vont être en général trouvées dans ces zones-là. Ce qui paraît quand même beaucoup si on compare ça au Canada, mais quand on compare à une forêt typique d'Amérique du Sud ou, dans le fond, la forêt qui serait là si on n'avait pas mis des plants de café, on parle d'environ presque 250 espèces d'oiseaux.
Oui, les parcs nationaux d'Amérique du Sud peuvent aller à plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux sans problème.
C'est ça. Donc, ça n'a rien à voir, la comparaison de l'ombre d'espèces. Il y a beaucoup, beaucoup moins d'espèces qui peuvent utiliser la culture typique. Si on parle de polyculture, donc à l'ombre, on parle de 70-80 espèces. Quand on parle du café qui est certifié bird-friendly, donc c'est une certification qui est vraiment spécifique pour les oiseaux. La certification en tant que telle du café Bird Friendly va regarder plusieurs choses. Donc, va regarder qu'il y a plein d'espèces d'arbres différentes, plusieurs couches de plantes. Donc, on va s'assurer qu'il y ait une couche au sol, on va s'assurer qu'il y ait le café, on va s'assurer qu'il y ait une couche émergente. Donc, en fait, la forêt tropicale est faite en strates. Donc, on s'assure que toutes ces strates-là sont présentes. On s'assure de conserver les zones tampons autour des points d'eau, d'avoir des feuilles mortes au sol. Donc, vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un écosystème fonctionnel en même temps d'être une culture. Puis souvent, ça va aider beaucoup les producteurs parce que les producteurs vont aussi produire d'autres plantes au travers de ça qui peuvent aussi être cultivées dans cette région-là. Donc, ils vont savoir non seulement avoir le café, mais aussi d'autres espèces de plantes qui vont leur apporter du revenu. Ça va beaucoup les aider. Puis ce que ça fait, c'est que ces plantations de café-là vont soutenir presque autant d'oiseaux qu'une forêt tropicale. Okay. Donc, on parle de 230-240 espèces d'oiseaux.
Ah oui, donc quand même une différence nette très, très importante avec les plantations typiques.
Exactement. La ferme doit être aussi être certifiée biologique. Okay. Donc, c'est un des trucs qui est demandé pour la certification. La certification Bird Friendly a été développée par le Smithsonian, qui est une institution aux États-Unis. Ça a été développé. Mm-hmm. Ils ont travaillé avec les agriculteurs pour développer cette certification-là. C'est certifié de façon indépendante. Les gens vont aller sur les fermes à café, vont voir c'est quoi l'habitat, puis suivre ces critères-là. Ils vont retourner chaque 3 ans pour s'assurer de tout ça.
Que les critères sont encore respectés.
Exactement, exactement. Quand, si, admettons, on compare la certification Bird Friendly comparée à d'autres certifications qui sont communes. Donc, quand on parle, par exemple, poussée à l'ombre. Mais poussée à l'ombre, de base, ce n'est pas une certification. N'importe qui pourrait marquer poussée à l'ombre tant qu'il y a quelque chose par-dessus leur plan, puis okay. Ce n'est pas une certification. Si on parle des certifications organiques, mais une plantation au soleil peut être organique, peut être biologique.
Et tant qu'elle n'utilise pas de pesticides d'origine synthétique, elle peut se faire certifier. Exactement. Même si finalement, d'un point de vue environnemental ou disons pour les oiseaux, ce n'est pas idéal.
Exactement, exactement. Donc, c'est ça. Ça n'a aucun... ça n'a aucun... ça ne veut rien dire comparé à par-dessus. Okay. Ça peut être une monoculture qui est biologique pareil. Ensuite, quand on parle d'équitable, bien équitable, le café peut être équitable même s'il est poussé monoculture au soleil. L'avantage du café de nichoir, c'est qu'il est aussi équitable. Donc, en général, c'est bien. C'est bon pour les fermiers aussi parce que c'est aussi équitable.
Oui, j'allais demander parce que quand même, je sais que ça, c'est important maintenant. Oui, c'est super important. Il y a eu beaucoup de mouvements pour s'assurer que le café soit plus équitable.
C'est ça. Fait qu'on, le café qu'on parle ici, c'est un café qui est triple certifié. Donc, il est équitable, il est biologique et il est bird-friendly. Puis si on regarde d'autres certifications dans lesquelles on va parler plus d'habitat, donc il y a des certifications qui existaient déjà qui vont qualifier l'habitat dans lequel le café est poussé, mais certaines de ces certifications-là, si on lit les critères, mais il peut y avoir jusqu'à 70 % des graines dans le mélange qui n'est pas certifié. Donc, tant que juste 30 % du mélange est certifié, c'est, ils peuvent avoir leur logo dessus.
Ah oui. Donc, il y a dû y avoir un travail, j'imagine, qui a été fait ici pour vous assurer finalement de trouver la certification qui correspondait le plus aux valeurs du nichoir ou...
Donc, la certification, c'est la certification Bird Friendly du Smithsonian. Puis nous, on achète le café de fermes qui ont cette certification-là. Donc, chaque fois qu'on reçoit du café, on va recevoir le café d'un endroit où toutes les graines de café dans un sac viennent de cet endroit-là et il est tout certifié, pas de mélange.
OK. Et puis, donc le café vient de quel pays, par exemple, juste par curiosité? Oui,
ça va vraiment dépendre. On a déjà eu du café du Guatemala, si je ne me trompe pas. Je pense que j'ai vu Nicaragua. Donc, la certification Bird Friendly, en fait, elle est présente dans 12 pays différents. Puis, on en a reçu de différents pays. Là.
Et puis, juste par curiosité, parce que là, j'imagine, évidemment, bon, c'est important de préserver les oiseaux tropicaux, etc. Puis, en plus, que c'est des endroits où, en général, la biodiversité est très élevée et donc, ils sont des réservoirs de biodiversité. Mm-hmm. Par contre, quand même, les gens, ce n'est pas si éloigné de nous. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux du Québec qui, en ce moment, surtout, on est au début décembre, qui, en ce moment, sont peut-être déjà rendus, qui sont sur ces territoires-là. Alors, est-ce que vous savez un peu quel genre d'oiseaux québécois vont passer l'hiver dans ce genre de territoire-là où des anciennes forêts tropicales reconverties en plantations de café bird-friendly?
Oui, oui. En fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a des gens en fait, qui ont fait justement des listes des espèces d'oiseaux qu'on va retrouver sur ces fermes à café-là. Quand on regarde, par exemple, si on regarde une liste des oiseaux qui ont déjà été vus ou qui sont couramment vus autour de Montréal, 17 % des espèces autour de Montréal ont été trouvées sur des fermes à café. Quand on regarde, par exemple, les parulines, à plus de 80 % des parulines ont été trouvées sur les fermes à café. Okay. Presque toutes nos espèces de moucherolles et toutes nos espèces de viréos.
Ont été retrouvés
sur les fermes à café. Donc, on parle, c'est ça, beaucoup de passereaux. Donc, c'est comme j'ai dit, paruline, viréo, moucherolle, certaines hirondelles, colibris. On parle aussi d'oiseaux de proie. Donc, certains oiseaux de proie vont faire des longues migrations aussi. Donc, au Canada, environ presque 40 % de nos espèces sont des migrateurs qui vont aller dans les néotropiques, donc autour des endroits autour des fermes à café.
Et donc, c'est ça, qui sont susceptibles de se retrouver dans les fermes à café.
Exactement.
Ah oui, et c'est important parce qu'évidemment, bon, dans le cas de certaines ces espèces-là qui sont en diminution. Là, vous parlez entre autres des hirondelles, le fait que ça m'a frappé, évidemment, puis certaines espèces de parulines, je pense la paruline du Canada. C'est extrêmement important, finalement, de préserver aussi leurs habitats d'hivernage parce que peu importe les efforts que nous, on fait ici, le fait qu'ils passent quand même la moitié de l'année de l'autre côté du globe, ça fait en sorte qu'on a aussi on a une certaine responsabilité, si on veut les préserver pour nous-mêmes aussi, de les aider partout sur leur chemin de migration.
Exactement. Donc, on peut les aider de peu importe où est-ce qu'ils sont. Donc, c'est très important de conserver leur habitat d'hivernage aussi.
Et puis, si on veut se procurer ce café-là du nichoir, où est-ce qu'on peut aller? Comment ça fonctionne exactement?
Le nichoir, on peut se le procurer sur le site cafébirdfriendly.org. Café pas d'accent, donc tout dans un mot. Donc, sur le site, en fait, on va pouvoir choisir le café qu'on veut. Est-ce qu'on veut moyen? Est-ce qu'on veut foncé? On peut choisir sa mouture et on peut aussi choisir quel organisme on aimerait soutenir. Nous, quand on a commencé le café, on a fait ça quelques années, puis on s'est dit, bon, on voudrait que le café soit bu par plus de gens. On veut que le message soit passé parce que ça a tellement un gros impact sur la conservation générale qu'on aimerait ça qu'il y ait vraiment plus de gens qui puissent le boire. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait approcher d'autres organismes qui ont les mêmes valeurs, si vous voulez, que le nichoir. Puis, on avait un partenariat. Donc, sur le site Café Bird Friendly, on peut choisir, en fait, des organismes locaux qu'on veut soutenir. Quand on achète le sac de café, ben une partie des profits de chaque sac de café va, oui, venir au nichoir, mais aussi va aller à l'organisme que vous désirez soutenir.
Si, par exemple, des gens qui aimeraient soutenir des organismes peut-être un petit peu plus proches de chez eux, puis qui sont pas nécessairement proche du nichoir. On est vraiment dans comme l'extrême ouest du Québec, c'est pas mal. Donc, vous avez l'opportunité finalement pour ces gens-là de soutenir d'autres organismes que le nichoir, si c'est plus proche d'eux et qu'ils veulent encourager des organismes locaux.
Exactement. Chaque sac de café va avoir un impact qui est quand même assez important. Donc, ça va avoir un impact sur les oiseaux en Amérique du Sud. Ça va aider aussi le Smithsonian à développer et à continuer ce qu'ils font. Je sais qu'ils veulent faire quelque chose de similaire avec le cacao. Le sac de café va aussi soutenir le nichoir. Donc, c'est quand même notre café. Et en plus, ça soutient un organisme de votre choix. Donc, pour l'instant, je crois qu'on a 7 partenaires, donc on travaille à en avoir plus. Il y en a qui vont avoir une action beaucoup plus provinciale, donc plus au travers de la province. Il y en a qui vont être très locaux comme nous. Il y en a qui, là, on commence à essayer de développer, il faut sortir de la province et tout ça. Donc, on a des partenaires en Ontario. On essaie d'étendre un peu le message puis faire que le plus de gens possible puissent vraiment participer à ce projet-là qui est super intéressant.
Oui, puis évidemment, j'imagine aussi au fur et à mesure que des cafés, par exemple, qui ont des exigences spécifiques au niveau environnemental vont gagner en popularité, bien, on peut imaginer aussi que ça pourrait éventuellement avoir un impact sur les pratiques même de grosses plantations qui pourraient décider, bon, bien, visiblement, il y a une acceptabilité sociale à aller chercher en décidant de changer nos pratiques aussi.
C'est ça, donc plus on le demande, plus ça va inciter les fermes à aller plus vers ça. Puis la certification a vraiment un gros avantage pour les agriculteurs aussi. Donc, un, c'est équitable, comme je l'ai mentionné, mais aussi leurs fermes à café, ça fait que les fermes à café sont beaucoup plus résilientes au changement climatique. Donc, les fermes à café avec un couvert forestier, bien, en ce moment, la plante à café, c'est un plant qui est assez particulière. Donc, elle a des préférences, puis si on n'est pas tout à fait dans ses préférences, bien, elle n'est pas trop contente. Fait qu'il y a des fermes à café, en fait, donc, qui ont dû migrer de plus en plus haut en élévation parce que bien, c'était trop chaud pour le plant de café. Où il y avait trop de pluie, pas assez de pluie. Surtout, on sait que le changement climatique, bien, il va y avoir beaucoup plus de ces années-là où il y a plus de pluie que normal, moins de pluie que normal. Donc, ça va avoir un gros effet sur les fermes. Mais si on a un couvert forestier, si on a d'autres plantes, bien, l'écosystème est beaucoup plus résilient. Les fermes à café sont beaucoup plus résilientes. Donc, c'est beaucoup mieux pour le fermier également.
Oui, on peut imaginer même juste pour commencer, le fait qu'il y a des grands arbres, etc., l'ombre permet un peu d'abaisser la température au sol, ou des choses comme ça.
Exactement.
Donc, de ne pas exposer les plantes de café au soleil, oui.
Excuse-moi. Mais ça aide aussi beaucoup le sol. Fait que les sols des forêts tropicales sont très, très riches, mais ils s'épuisent très rapidement. Donc, d'avoir d'autres plantes qui vont aider à régénérer le sol, ça fait qu'on a moins besoin de mettre de fertilisants, moins de pesticides parce qu'il y a des oiseaux. Donc, l'effet là, est tellement... ça a tellement de ramifications, le café. C'est super intéressant.
Bien, Joannie, merci beaucoup pour cette entrevue. Et puis, on peut trouver le café sur le site Internet.
Oui, donc on peut trouver le café sur le site, c'est cafébirdfriendly.org.
J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de se reparler vraiment de la mission globale du nichoir éventuellement, parce qu'il y a évidemment plein de choses intéressantes à dire aussi sur la réhabilitation des oiseaux, mais ça va être pour une autre fois.
Parfait,
merci beaucoup.
Au plaisir.
C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On vous rappelle que l'Encan de Québec Oiseau aura lieu du 29 janvier au 11 février, en ligne bien entendu. On vous invite aussi à consulter le site internet pour en apprendre plus sur le tout nouveau défi Ornitho 8 km qui a été lancé cette année et qui consiste à voir le plus d'oiseaux possible dans un rayon de 8 km autour de chez vous. J'ai commencé à le faire moi-même et dès le 1er janvier, j'avais 2 pigeons que je voyais par la fenêtre, donc vous êtes mieux de vous y mettre vous aussi, si vous voulez rattraper ces belles observations-là. En plus d'être en accord avec les exigences de ne pas sortir de notre région, ce défi maximise votre temps d'observation en minimisant évidemment le temps de déplacement et est aussi plus écologique. Finalement, on vous souhaite à tous une très belle année 2021 pleine de découvertes ornithologiques, de primes coches et peut-être éventuellement, on l'espère, on se croise les doigts très fort, de voyages. De ma part, j'en profite aussi pour vous dire que bon, je suis conscient que, à cause des restrictions, la balado-diffusion s'est concentrée un petit peu dans la région où je pouvais aller faire des entrevues en personne. Et croyez-moi, dès que ça va être possible, c'est notre résolution pour 2021, dès que c'est possible, sortir et parcourir le Québec pour rencontrer les gens qui veulent bien nous parler d'oiseaux aux quatre coins de la province. Merci et à la prochaine!